Mon nom est Audrey Bélanger-Leclerc, je suis nutritionniste du sport et j'anime le podcast de nutrition sportive « Alimente ton sport ». Ce que j'aime, c'est de clarifier et de démystifier les tendances populaires en nutrition sportive et le tout basé sur la science. Avec le podcast, mon but est de te donner des trucs concrets pour optimiser ton alimentation et améliorer tes performances dans la simplicité, l'équilibre et surtout le plaisir. Avant de me lancer dans le vif du sujet du jour, j'ai envie de prendre quelques minutes pour te parler de ma formation complètement gratuite « 4 étapes pour réussir tes objectifs de course en sentier ». Dans cette formation de 4 jours, je te présente sous forme de vidéo mes meilleurs trucs de nutrition pour t'aider à optimiser ton énergie, ta récupération et tes performances sportives. Si t'es là sur le podcast, c'est que tu sais comme moi que la nutrition est tout autant importante que ton entraînement pour l'atteinte de tes objectifs de course. Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Allô! Bienvenue officiellement dans la saison 4 d'Alimente ton sport. Pour cette toute nouvelle saison estivale, j'ai décidé de publier des épisodes un peu plus légers. Donc, le concept pour les mois de juin, juillet et août, c'est que je vais répondre à vos questions dans les épisodes. Ça fait déjà là, un petit moment, quelques semaines, voire mois, que je récolte des questions sur mes réseaux sociaux, donc j'ai déjà un beau planning pour l'été. Ça va être des courts épisodes d'environ 15-20 minutes et je vais me concentrer sur une seule question par épisode. D'ailleurs, je t'invite à m'envoyer tes questions en message privé sur Instagram ou sur Facebook. Ça va me faire plaisir de les utiliser là, pour les épisodes de l'été. Tu peux me trouver en cherchant Audrey Bélanger-Leclerc, nutritionniste du sport. Donc, je te laisse à l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 72 d'Alimente ton sport. Cette semaine, je reçois une collègue nutritionniste du sport également, mais qui est aussi spécialisée en troubles alimentaires. On va parler, oui, de troubles alimentaires, mais surtout de préoccupations excessives à l'égard du poids et des aliments, et on pourra prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement tout ça. C'est un phénomène qu'on voit beaucoup dans notre pratique en tant que nutritionniste du sport. Je suis avec Alexia Demacor. Allô Alexia et bienvenue sur Alimente ton sport.
Salut Audrey, merci de l'invitation.
Merci à toi, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Je l'ai dit en introduction, tu es nutritionniste du sport, tu as aussi une spécialité en troubles alimentaires. En fait, je pense qu'on peut dire que tu es une des rares nutritionnistes au Québec qui a ces deux expertises-là qui sont tellement complémentaires. J'ai envie que tu nous parles un petit peu plus de toi, de ton travail de nutritionniste et peut-être de pourquoi aussi tu as décidé de te spécialiser dans ce domaine-là.
Un petit peu par hasard, en fait. Fait que moi, j'ai gradué en 2005, puis rapidement, j'ai comme été catapultée dans le monde de la haute performance. Fait que comme je l'explique souvent, genre 3-4 mois après avoir gradué, on m'a offert un job au Cirque du Soleil. Fait que rapidement, j'ai eu à travailler avec des artistes de haut niveau. Puis, je suis pas toute jeune, fait qu'on se ramène à presque il y a 20 ans en arrière. On parle encore beaucoup moins, en fait, de troubles alimentaires ou de préoccupations justement excessives à l'égard du poids, de la nutrition, de la silhouette. Je me sentais vraiment plus au dépourvu quand j'avais à travailler avec des artistes qui présentaient justement des préoccupations excessives par rapport à leur corps, par rapport à la nutrition, mais surtout me demandaient de les aider à perdre du poids dans un contexte où ils s'alimentaient déjà très peu. En parallèle avec le cirque, j'ai commencé à travailler aussi avec des principalement des sports acro-artistiques, fait que le plongeon, le passage artistique, je faisais un petit peu de natation artistique aussi, de gymnastique. C'est des disciplines qui sont jugées. Donc, encore une fois, j'étais confrontée à travailler avec des athlètes, des artistes qui vivaient ces préoccupations-là. Et moi, je m'en ai travaillé en fonction du sport et non en troubles alimentaires. Donc, j'avais pas ce bagage-là, ces connaissances-là pour savoir comment interagir dans ce contexte-là. Fait que je suis allée me former. Je suis allée me former dans le fond beaucoup en troubles alimentaires cliniques. j'ai fait toutes les formations qui étaient disponibles. C'était super intéressant, mais il manquait tout le temps un petit peu le comment adapter justement ces recommandations-là à ma population, c'est-à-dire les athlètes, les artistes de haut niveau. Donc, j'ai sûrement fait des erreurs, j'ai essayé en fait de les aider du mieux que je pouvais, n'ayant pas justement cette spécialité-là à la base. Puis, ce qui a vraiment été un tournant, je pense, dans ma carrière, c'est la rencontre de Jodie Richardson, qui est la psychologue avec qui je collabore encore maintenant, qui, elle, vient vraiment du milieu des troubles alimentaires. Fait que ça fait une bonne dizaine d'années qu'on travaille ensemble. Fait qu'elle, elle m'a formée beaucoup, beaucoup, dans le fond, en troubles alimentaires. Moi, je l'ai formée à savoir comment adapter au contexte de la performance ces recommandations-là. Là, je peux dire qu'effectivement, après une bonne dizaine d'années, je pense à l'aise, puis j'ai développé cette expertise-là à savoir comment traiter de façon nutritionnelle le trouble alimentaire chez l'athlète, l'artiste et le danseur.
Je trouve ça beau de t'entendre dire tout ça parce qu'en fait, il faut savoir que maintenant, tu accompagnes des nutritionnistes, tu formes des nutritionnistes en trouble alimentaire chez le sportif, donc je trouve ça vraiment intéressant. Puis en fait, ce que tu disais quand tu as commencé à pratiquer, mais je pense que, je vais peut-être généraliser là, mais on sent comme ça quand on commence à pratiquer parce que tu sais, moi, de mon côté, j'étais formée en nutrition sportive, j'avais un bon bagage à ce niveau-là, mais quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai réalisé qu'il me manquait une bonne partie du bagage, et c'était ce bagage-là au niveau trouble alimentaire, là. Fait qu'effectivement, je pense que c'est très important d'avoir les deux, là. Justement, ça m'amène à ma première question que j'avais pour toi. On le sait que les pourcentages de troubles alimentaires chez la population sportive sont élevés, puis j'ai même envie de dire que ça tend à augmenter tout ça. Mais il y a aussi une grande proportion de sportifs qui n'ont pas nécessairement un trouble alimentaire, mais qui vont quand même avoir une relation qui est fragile avec les aliments et leur corps. C'est un petit peu ce qu'on appelle justement la préoccupation excessive à l'égard du poids et des aliments. Mais j'ai envie de t'entendre par rapport à ça. T'sais, avant même de parler d'un trouble alimentaire en soi, c'est quoi les signes qu'on peut avoir qui pourraient nous dire il y a quelque chose, t'sais, il y a peut-être une relation qui est fragile avec les aliments et le corps?
En fait, j'ai juste souligné le premier point que tu as mentionné parce que c'est super important. Quand on regarde la littérature scientifique, la prévalence des troubles alimentaires chez les athlètes, elle est plus élevée. Fait que c'est quelque chose qu'on voit dans notre pratique, mais la science l'a montré en fait aussi que par rapport aux non-athlètes, il y a plus de troubles alimentaires. C'est une population qui s'entraîne beaucoup et plus spécifiquement chez les athlètes. Fait que ça, je pense qu'on le voit évidemment en pratique. Puis je serais d'accord avec toi pour dire que on dirait que c'est en croissance. Malheureusement, on le voit de plus en plus. Ou peut-être que les gens en parlent davantage aussi. On sait que la pandémie n'a pas aidé. Ça, je pense qu'à chaque jour, j'ai en consultation un athlète ou un artiste qui va me dire que ses préoccupations ont commencé dans le contexte de la pandémie aussi. Fait que je pense qu'il y a ce facteur-là aussi à tenir en considération. Pour répondre à ta question, en fait, nous, on place les... Ben, nous, pas juste moi, ou les nutritionnistes, mais nous, en fait, qui travaillons dans ce milieu-là, si on place les troubles alimentaires dans un continuum où, à une extrémité, on va parler d'alimentation saine, c'est-à-dire une alimentation saine, variée, équilibrée, flexible, avec un poids optimal, fait que pas optimal pour la société, mais optimal, en fait, pour son propre corps. Donc, un poids qu'on va souvent qualifier comme étant naturel. Puis, une image corporelle qui est soit saine ou soit neutre. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'alimentation dysfonctionnelle, puis dépendamment en fait des recueils ou des livres, en français, ça peut être appelé une alimentation troublée. Moi, j'utilise davantage le terme alimentation dysfonctionnelle, mais on peut dire que c'est peut-être deux synonymes, une alimentation peut-être plus fragile, comme tu disais, avec les aliments. Fait que c'est des gens qui vont tenter certains, parfois, comportements qui peuvent être considérés comme étant dysfonctionnels. Fait qu'un petit peu de restriction alimentaire, un régime, ou c'est tel qu'on paye, fait que je vais me priver, en fait, de manger certaines choses. Je vais peut-être me déshydrater parce que j'ai un sport à catégorie de poids, faut que je fasse le poids. Ça peut être avoir une perte de contrôle avec les aliments, ça peut être des préoccupations avec la nourriture qui sont plus présentes ou des préoccupations juste par rapport au poids ou à l'image corporelle qui vont être un peu plus présentes. Mais quand on a qu'on considère comme une alimentation dysfonctionnelle, ces comportements-là sont pas si fréquents que ça, sont pas si rigides que ça. Fait que, je pense que ça nous est tous arrivé dans notre vie d'avoir une période où on était un peu plus préoccupé, on a tenté certaines choses, mais après ça, on remigrait vers ce qu'on considère comme étant une alimentation saine, variée. Ce qui se passe, c'est que le plus de temps qu'on passe dans la catégorie alimentation dysfonctionnelle, le plus de fois on va adopter ces comportements-là, le plus de chances qu'on a que ça nous mène justement vers des troubles alimentaires qu'on connaît, qu'on appelle plus cliniques. Fait qu'elle est où cette ligne-là? Parce que souvent ça, la question, c'est quoi une alimentation dysfonctionnelle versus un trouble alimentaire? Mais c'est quand ces comportements-là vont être encore une fois plus fréquents, plus rigides, mais qui vont aussi amener une certaine détresse, qui vont aussi amener une anxiété, où on peut parler aussi de déficit fonctionnel, c'est-à-dire quand ça vient affecter les autres sphères de notre vie. Et ça, c'est un petit peu la nuance entre les deux.
Je trouve ça super intéressant. Tu sais, tu parlais justement d'alimentation dysfonctionnelle, tu sais, de rigidité avec l'alimentation. Puis c'est quelque chose qu'on voit fréquemment dans le monde du sport. Tu sais, de dire, par exemple, à cause que je fais mon sport, ben, je ne dois pas manger tel aliment. Tu sais, d'avoir différentes règles alimentaires en fonction du sport. Est-ce que, en fait, je connais la réponse, mais je la pose quand même. Est-ce que tu penses que c'est tout à fait possible d'être un sportif ou, peu importe le niveau, là, un sportif ou un athlète de haut niveau, et d'être justement dans la partie alimentation saine, image positive du continuum?
Je pense, oui, les athlètes, évidemment, qui vont être capables d'avoir une certaine rigidité qui va être associée à une assiduité au niveau de leur entraînement, qui vont être capables de combler leurs besoins en glucides, en protéines, fait qu'ils vont avoir une rigidité qui va leur permettre de bien performer. Souvent, la nuance, c'est ma perception, c'est que ces gens-là vont quand même être capables d'être un peu flexibles avec leur alimentation. C'est-à-dire, j'ai une fête d'amis, ben, je vais quand même être capable d'y participer ou après l'entraînement, tout le monde va manger une crème glacée. Ben, je vais aller manger une crème glacée, dans le fond, avec les autres membres de mon équipe aussi. Ou ça peut être des gens qui, en fond, on parle beaucoup de périodisation de l'entraînement et de périodisation de la nutrition aussi. Fait que c'est des gens qui vont être capables de dire, OK, ben, dans ma période de compétition, de préparation en compétition, ben, ça, c'est important. Fait que, oui, j'ai une petite rigidité alimentaire, mais ça me permet d'atteindre mes objectifs et à combler mes besoins. Mais j'accepte que, à d'autres moments de l'année, ben, c'est correct que ma composition corporelle change, que je sois plus flexible par rapport à mon alimentation. Fait qu'encore une fois, je pense que la ligne, elle est là aussi entre les athlètes qui sont capables d'avoir cette rigidité-là, mais qui ne va pas venir impacter négativement les autres sphères de leur vie 12 mois par année.
C'est ce que tu nommais tantôt, tu sais, en lien avec la détresse également, tu sais. C'est de se dire, c'est normal d'avoir des périodes où, sans que ce soit des règles alimentaires, j'aime pas ça appeler des règles alimentaires, mais c'est en fait de faire des choix qui sont bienveillants pour le sport qu'on pratique, mais d'avoir quand même cette flexibilité-là. Et le petit drapeau qu'on pourrait peut-être lever, c'est quand tout ça devient justement stressant, puis que ça a un impact sur les autres sphères de notre vie.
Exact. Puis moi, j'aime bien, tu sais, on parle de règles alimentaires, mais dans ce contexte-là, pour moi, c'est plus une structure, tu sais, alimentaire, qu'il y a des règles, dans le fond, qui vont suivre. Puis, en même temps, quelqu'un qui, oui, a une petite rigidité, puis qui fait des choix alimentaires en fonction de ses besoins d'entraînement, bien, il ne devrait pas se retrouver en sous-alimentation. Fait que ça aussi, c'est une autre nuance dans la mesure où on le fait pour le bien du sport, pour le bien de la performance, mais on sait que si on ne s'alimente pas adéquatement, si on ne se repose pas non plus, ben on n'est pas en optimisation de la performance. C'est que ça aussi, ça peut dresser, je pense, la ligne entre ben là, on n'est pas en optimisation de performance, puis on est plus en train de développer cette anxiété-là qui est associée au contrôle du poids, au contrôle alimentaire.
Tu l'as nommé tantôt aussi, tu sais, si on a une relation qui est dysfonctionnelle avec la nourriture, avec le corps, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement évoluer vers un trouble alimentaire. Mais ça serait quoi les facteurs de risque, justement, qui pourraient contribuer à cette évolution-là?
Mais la première chose, encore une fois, c'est le plus de temps on va passer à adopter ces comportements-là, le plus on a de chances qu'éventuellement, ça amène vers un trouble alimentaire. Fait qu'on sait que les gens, même chez ceux qui ont très peu de facteurs de risque de développer des troubles alimentaires, le plus ils vont faire de régime, ça se peut qu'à un moment donné, ça va justement se transformer en trouble alimentaire. Mais si on a d'autres facteurs de risque, si on sait qu'on a déjà une fragilité, on est déjà un peu prédisposé à avoir ces préoccupations importantes là. Quand on parle de préoccupations excessives, souvent on est déjà dans le côté du trouble alimentaire, mais des préoccupations qui sont présentes. Mais c'est sûr que si on transitionne vers une équipe qui est beaucoup plus compétitive ou une équipe où il y a beaucoup, beaucoup d'accent qui va être mis sur le contrôle alimentaire, le contrôle du poids, ça, définitivement, ça va agir comme facteur de risque. Ça peut être de faire la transition vers une nouvelle discipline ou un nouveau sport qui va mettre encore une fois beaucoup d'accent sur le lien performance et poids ou composition corporelle. Si on se met à calculer les calories, en fond, sur une base quotidienne, clairement aussi. Fait que même si on ne suit pas de régime, mais qu'on s'impose un calcul calorique ou de dépenses énergétiques, ça aussi, c'est des comportements qui, à la longue, risquent de nous faire pencher plus vers le trouble alimentaire aussi. Notre environnement d'entraînement, c'est que les environnements d'entraînement qui peuvent être plus toxiques, malheureusement, ou les comportements de l'entourage. Fait que s'il y a un entraîneur qui parle beaucoup de poids ou qui nous demande de perdre du poids, ça aussi, ça va augmenter nos préoccupations. Des fois, ça peut être des comportements d'un conjoint, d'un nouveau conjoint, d'une conjointe, d'un parent, dans certains contextes aussi. Fait qu'on a un enfant qui a toujours, ou un ado qui a toujours habité chez un de ses parents, puis que là, il fait la transition vers un autre de ses parents, puis au niveau alimentaire, c'est complètement différent l'éducation qu'il reçoit. Ça pourrait aussi contribuer ou être considéré comme un facteur de risque. Puis, un point qu'on oublie souvent d'aborder, c'est les pertes de poids qui sont non intentionnelles. Fait que des fois, en fait, un athlète qui va tomber malade, qui a une mono, ou qui a une grosse gastro, puis que là, qui perd beaucoup de poids, ou par exemple, qui débute une médication pour des sites d'attention vivante, concerta, qui coupe l'appétit, puis suite à ça, il y a une perte de poids. Fait que dans ces cas-là, c'est des pertes de poids qui sont non intentionnelles. Mais quand on a déjà une préoccupation par rapport à notre corps, à notre poids, on dit, moi, je ne veux pas le regagner dans ce poids-là. Mm. Et des fois, c'est là que le trouble alimentaire peut être initié ou on peut se diriger vers un trouble alimentaire. Puis, dernier point, c'est les blessures. Fait que les blessures pour un athlète, c'est vraiment un moment qu'on considère comme étant à risque pour développer encore plus de préoccupations. Parce que là, on est dans un contexte où souvent, il y a des modifications pour l'entraînement. Fait qu'on se dit, il faut se contrôler ma nourriture. Tu sais, si je ne peux pas m'entraîner autant puis que je vois peut-être mon corps changer, bien là, je vais avoir tendance à vouloir contrôler davantage mon alimentation, être plus en restriction. Puis ça, encore une fois, si on a trop de comportements dans ce sens-là, bien ça peut nous mener vers le trouble alimentaire.
Oui, puis tu sais, dans le fond, c'est que c'est différent d'une personne à l'autre, j'imagine, et que c'est pas nécessairement un facteur. C'est qu'il peut avoir différents facteurs, puis probablement qu'on est même pas capable d'identifier exactement c'est quoi qui est derrière tout ça quand ça arrive, là.
Tout à fait. Puis, tu sais, on se souvient qu'un trouble alimentaire, c'est les aspects biopsychosociaux aussi. Fait que c'est comme plusieurs facteurs. Là, ce que j'ai mentionné sont vraiment spécifiques à l'athlète puis plus au sport, mais tu sais, ça part avec les traits de personnalité de la personne, qui est très intrinsèque, puis on peut pas, si on est très perfectionniste, on a une personnalité un peu plus obsessionnelle, ou on a une facilité à suivre les règles, tout ça, c'est des choses justement qui vont amener une vulnérabilité davantage à la personne au préalable.
Ouais. Puis je me mets à la place de quelqu'un qui écoute l'épisode d'aujourd'hui puis qui se dit, ah, tu sais, je pense que j'ai peut-être une alimentation dysfonctionnelle. Est-ce que tu as des exemples concrets ou des signes à nous partager qui pourraient vouloir dire, ah, tu sais, je pense que j'ai besoin d'aller consulter, j'ai besoin d'en parler, des exemples concrets que tu verrais peut-être dans ta pratique?
C'est la première chose, parce qu'on donne beaucoup de formations aux entraîneurs, souvent, c'est ce qu'on leur dit, c'est on identifie drapeau rouge, drapeau jaune, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un trouble alimentaire. Puis souvent, les gens qui vont écouter ton podcast, le but, c'est pas qu'ils deviennent aptes à pouvoir diagnostiquer le trouble alimentaire, vraiment, vraiment pas. Mais souvent, c'est une combinaison de plusieurs drapeaux jaune-rouge où là, on se dit, OK, mais là, il y a quelque chose qui cloche. Fait que, en fait, ça peut être aussi simple. C'est encore là, on parle pas de troubles alimentaires, mais c'est plus d'alimentation dysfonctionnelle, mais si je me permets pas de manger de dessert jamais la semaine, c'est juste la fin de semaine, ou à chaque fois que je mange tel truc, il faut que j'aille faire du cardio, il faut que j'aille compenser, ou il faut que je me restreigne au prochain repas. Ça peut être toute forme de règles alimentaires, c'est par rapport au fait que je mange pas après telle heure le soir, que je me permets pas, si j'ai pas fait tant d'entraînement dans ma journée, mais je me permets pas de manger ça, ou je mange juste un féculent dans le fond, dans ce contexte-là. Fait que beaucoup, quand on essaie à la baisse. Fait qu'en se restreignant, de venir ajuster l'alimentation en fonction de l'entraînement qui a été fait ou des fois en fonction du poids sur la balance. Fait que des fois, ah ben, ce matin, mon poids est plus bas. Fait que je vais me permettre plus. Ou à l'opposé, je vais me restreindre en fonction si mon poids est plus élevé. Au lieu de fier à ses signaux internes, j'ai-tu faim ou j'ai-tu pas faim ou comment je me sens aujourd'hui. Peut-être que je me suis pas entraînée aujourd'hui, mais que je récupère la grosse semaine d'entraînement que j'ai eu la semaine passée. Fait que je vais avoir faim toute la semaine. C'est tout à fait normal. Si je m'entraîne 7 jours sur 7, ça aussi, souvent, si ça me rend trop anxieux de ne pas m'entraîner, ou si, par exemple, je fais de la course trail, puis que là, je me dis, ben, je me suis entraînée, j'ai fait mon programme d'entraînement toute la semaine, ma journée de repos, je fais pas de la course, mais je vais aller faire comme plein rollerblade, ou je vais aller, dans le fond, faire un autre sport, parce que je suis trop anxieuse si je fais rien. Ça aussi, ça peut être un drapeau. À ce moment-là, encore une fois, ça dépend de la rigidité aussi de ces comportements-là. Tous les drapeaux, je dirais, qui sont plus rouges, c'est des drapeaux qui sont associés à la sous-alimentation. C'est quelqu'un qui est en alimentation dysfonctionnelle, il ne devrait pas être en déficit énergétique pour des longues périodes. Si c'est le cas, ben là, on est plus en trouble alimentaire. Fait que c'est pour ça que quelqu'un, c'est... qui a perdu ses menstruations, quelqu'un qui a des blessures qui guérissent vraiment pas, quelqu'un qui perd ses cheveux, qui a une intolérance au froid, qui va se priver encore une fois de faire plein d'activités autres. C'est tout des paramètres souvent qui vont être plus rouges que jaunes pour moi dans ce contexte-là aussi.
Dans ce contexte-là, tu parles de sous-alimentation. Je pense que c'est important, tu l'as nommé à quelques reprises dans l'épisode, au niveau du poids, dans le fond, parler peut-être un petit peu du poids de performance, puis avant, dans les critères de troubles alimentaires, de diagnostic, on parlait justement d'un IMCX, fait vraiment d'un critère de poids. T'sais, maintenant, on parle de sous-alimentation, fait que j'aimerais un petit peu t'entendre par rapport à ça, peut-être comment tu l'abordes aussi avec les athlètes que tu accompagnes.
Dans le DSM-5, là, qui est la Bible, dans le fond, des maladies psychiatriques, qui ont fait la nuance, justement, où ils ont enlevé l'IMC. Donc, surtout chez les athlètes, là, on s'entend, les athlètes sont très musclés. Donc, souvent, les cas de troubles alimentaires, d'anorexie passés inaperçus parce qu'ils ne cotaient pas cet élément-là. En fait, ce qu'on sait, là, la restriction, c'est quand une personne ne s'alimente pas suffisamment pour son âge, pour sa taille, pour ses activités physiques. Puis, souvent, ce qu'on voit, c'est que ça vient avec des signes de malnutrition. Fait que oui, il y a une perte de poids, mais j'en ai mentionné quelques signes, dans le fond, symptômes aussi. Donc, c'est pour ça que c'est pas par rapport à un poids. Un même poids peut être tout à fait adéquat pour quelqu'un d'autre. Mais pour une personne, en fait, pour maintenir un certain chiffre, si elle doit être en privation extrême, puis que là, son corps se met au ralenti, les menstruations arrêtent, ben là, on voit que pour cette personne-là, évidemment, elle ne s'alimente pas de façon optimale. L'analogie, puis tu as fait nos formations, fait que tu t'en souviens sûrement, mais l'analogie du petit bateau de styromousse, fait que souvent, on va expliquer ça aux gens, puis ça aide à comprendre. Fait que tu sais, notre poids, c'est comme un petit bateau de styromousse qui flotte sur l'eau, puis il y a des vagues sur l'eau, puis c'est tout à fait normal, c'est des fluctuations normales de poids. Fait que des fois, on part en vacances un petit peu plus élevé, ou on est hors saison, le poids est un petit peu plus élevé. Puis, des fois, il est un petit peu plus bas parce qu'on est justement peut-être en période d'affûtage pour une compée, ou peut-être qu'on est tombé malade, ou peu importe. Mais de façon générale, le bateau, comme il y a une moyenne qui se ressemble. Fait que plus ou moins quelques livres, mais c'est stable. Quand on décide que ça ne nous plaît pas, qu'on n'aime pas maintenir ce poids-là, c'est comme si on prenait un bateau, ben notre bateau de styromousse, puis on appuyait dessus, puis on le coulait dans le fond, on le coulait sous l'eau. Pour qu'on soit capable, dans le fond, de le maintenir là, il faut nécessairement toujours mettre un doigt dessus, fait qu'il faut toujours y penser, il faut toujours nous assurer, dans le fond, de ne pas oublier de mettre nos doigts sur le petit bateau, sinon qu'est-ce qui se passe? Il remonte à la surface. Mais le fait de devoir toujours penser à ça, ça, c'est notre préoccupation. Ça, c'est notre préoccupation. Puis quand, justement, on ne compte pas nos besoins, puis que là, on commence à avoir des signes, des symptômes de malnutrition, bien, c'est des préoccupations, c'est notre trouble alimentaire qu'on maintient. si on maintient notre poids à cet endroit-là. Fait que ça, c'est difficile pour certains athlètes qui ont excellé à un poids plus faible parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de l'atteindre, mais pas de façon durable. Puis, s'ils arrêtent de calculer pour leur nutrition, s'ils essaient d'être plus flexibles, ben là, le bateau, nécessairement, il tend à revenir à la surface de l'eau. À la longue, le problème, c'est que cette préoccupation-là, elle prend beaucoup de place dans la tête, de tous, mais de l'athlète, parce qu'on parle des athlètes, puis ça va venir à sa performance, parce que il va tout le temps être focusé juste sur ses comportements en lien avec son poids et non avec sa performance. Fait que les athlètes vont nous dire, je suis en train de m'entraîner, je devrais penser à mon pace, je devrais penser, dans le fond, à certaines choses plus techniques, mais je suis en train de penser à ce que je vais manger après ou je suis occupée parce que je me suis pesée ce matin puis que là, c'est plus élevé, fait que c'est sûr que là, il faut que j'aille faire du cardio après, dans le fond, mon entraînement de plus. Fait que là, on n'est pas du tout dans une optimisation de la performance non plus. Fait que c'est pour ça qu'on l'explique, cette analogie-là, aux athlètes, en leur disant comme, je sais que ça te plaît pas puis que tu veux vraiment, vraiment pas qu'on vient dans la surface de l'eau, mais en même temps, de ce que je vois, tu veux t'es épuisé d'avoir ces préoccupations-là, fait que c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble.
Mm-hmm.
Puis pour terminer, je leur dis, est-ce que ça se peut que ta peur, ce soit davantage le fait que ce petit bateau-là se transforme en fusée quand on lâche, puis que là, ça s'en aille dans l'espace? C'est souvent le cas. Fait que je leur dis, tu sais, ça, c'est cette peur-là irrationnelle de dire comme, si j'arrête de le contrôler, ben là, je perds le contrôle, puis mon poids va augmenter de façon exponentielle, tu sais, sans arrêt. Ouais. Fait que ça, on en parle en disant, ben non, puis comme nutritionniste, tu l'as vu aussi, les gains de poids sont souvent très, très graduels, puis on est capable de s'habituer, puis on est capable de faire en sorte que justement la performance continue, puis ultimement, on va mieux performer quand on est dans un poids où le corps se sent en sécurité aussi.
Tu l'expliques tellement bien, puis je trouve ça important, en fait, qu'on aborde ce sujet-là. J'essaie, tu sais, de l'aborder sur les réseaux sociaux, sur le podcast, de plus en plus, parce que on le sait, on est confronté à ça aussi en tant que nutritionniste quand on commence à pratiquer, mais il y a beaucoup de gens. Tu sais, là, on parle vraiment plus de troubles alimentaires, mais tu sais, même avant le développement du trouble alimentaire, dans le monde du sport, on entend souvent ça, tu sais, « Ah, je veux courir plus vite, donc je dois perdre du poids.
Mm-hmm. »
Mais la réalité, ce que j'explique toujours, c'est que la performance est multifactorielle, premièrement. Le poids, c'est un des petits facteurs qui, oui, peut avoir un impact, mais on a chacun notre poids de performance. Et ce n'est pas parce qu'un sportif ou un athlète va bien performer à un poids X que nous, en tant qu'individu, on va bien performer à ce poids-là. On a chacun notre poids à notre plein potentiel d'humain là, dans la vie de tous les jours et de sportif également. Fait que ça, je pense que c'est hyper important d'en parler.
Tout à fait. Puis en fait, souvent, je vais l'amener de cette façon-là. Si pour maintenir ce poids de performance-là, il faut que tu négliges les autres aspects d'optimisation de performance. Là, déjà, on peut avoir un recul et dire, OK, bon, on n'est pas en optimisation de performance. Fait que si il faut que tu coupes tes glucides post-entraînement, si il faut que tu coupes ta collation, si il faut que tu réduises ta quantité de glucides dans ton pendant, on n'est pas en optimisation de performance, clairement.
Oui, tout à fait. On a parlé beaucoup, tu sais, de tout ce qui touche justement une relation fragile avec le corps, les aliments. On a parlé même de troubles alimentaires. Il y a un autre sujet que je voulais qu'on aborde aujourd'hui et c'est en lien avec les binges. J'ai beaucoup de clients qui vont me dire, qui m'arrivent et qui me disent « Ah, tu sais, j'ai fait un binge », mais au final, ils ont plus mangé qu'à l'habitude un aliment X ou des aliments. J'ai envie qu'on décortique un petit peu, qu'on démystifie c'est quoi un binge, puis qu'est-ce qui est peut-être normal et anormal.
C'est comme un mot qui est devenu dans le langage populaire. Oui, hein? Les gens vont l'utiliser, puis des fois, tu sais, ils vont même l'utiliser à la blague. Mais en fait, un binge, c'est quoi la traduction francophone là, dans le DSM, entre autres? On appelle ça des crises de boulimie. Fait que binge eating episode, une crise de boulimie. Fait qu'est-ce que c'est? Puis je vais vous lire la vraie définition. C'est l'absorption alimentaire d'une quantité de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens absorberaient en une période de temps similaire et en peu de temps, c'est-à-dire souvent moins de 2 heures. Mais l'élément hyper important, c'est qu'il faut qu'il y ait une impression de perte de contrôle sur le comportement alimentaire. Fait qu'en gros, on mange une grande quantité de nourriture dans un court laps de temps puis on sent qu'on perd le contrôle pendant cet épisode-là. Oui, il peut y avoir ce qu'on appelle des épisodes ou des crises de boulimie objectifs ou subjectifs. Fait que, dans le fond, objectif, là, c'est vraiment la façon dont je vous l'ai décrit. Fait que ça, c'est une crise de boulimie, dans le fond, objective. Mais ça peut être subjectif, c'est-à-dire, comme tu le décris, pour la propre personne, elle trouve que c'est trop de nourriture. Fait que oui, son frère ou sa voisine pourrait manger la même quantité de nourriture puis trouver que c'est tout à fait correct, mais elle se trouve peut-être en perte de contrôle parce que d'habitude, elle se permet tant, puis là, justement, elle en a mangé plus. Donc, si quelqu'un, en fait, arrive en consultation, puis me parle de ça, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir justement, est-ce que il y a un sentiment de perte de contrôle ou c'est j'avais tellement faim que j'ai mangé rapidement, puis à ce moment-là, je me suis sentie plein, puis je me dis, ben oui, Colin, j'aurais peut-être pu manger un petit peu moins, puis mon mal au ventre après. Ce qu'on veut voir, c'est est-ce que cet épisode-là génère de la détresse? Est-ce que cet épisode-là augmente beaucoup l'anxiété? Des fois, les gens qui ont des épisodes boulimiques, c'est dès le matin, ils vont avoir peur, dans le fond, d'arriver à la maison le soir, puis ça va être une réelle peur, une anxiété de « Oh non, je vais encore perdre le contrôle, tu sais, avec les aliments ce soir. » Fait que ça, c'est la plus grande nuance, je pense, c'est entre j'ai plus mangé, puis versus un vrai épisode boulimique.
Ouais. Je pense que c'est important de normaliser que ça nous arrive tous, en fait, des fois, de dire « Ah, oui. Mon Dieu, je pense que j'ai dépassé la limite un peu cette fois-ci, je me sens un peu inconfortable, tu sais. » Mais comme tu dis, puis honnêtement, c'est encore le mot « détresse » qui revient. Fait que je pense que c'est important de nommer ça, cette espèce de lourdeur psychologique-là qui peut venir avec ces épisodes-là. Puis si c'est le cas, c'est important d'en parler.
Puis souvent, tu sais, quand on donne les formations aux professionnels de la santé, on va le mentionner, les crises de boulimie ou les BIN, dans le fond, qui vont être plus objectifs, c'est parmi les choses les plus honteuses à révéler aussi. Fait que c'est normal, c'est des gens qui écoutent dans ton podcast et qui se disent « Ouais, mais c'est tellement pas le coup d'en parler parce que j'ai honte. » Puis surtout, on dirait, ben pour tous, mais beaucoup chez les athlètes, parce qu'ils ont l'impression, dans le fond, que c'est la chose qui les empêche de comme pouvoir être des meilleurs athlètes ou ils se disent « Ouais, mais je suis pas un athlète, là, je fais pas bien mon travail comme athlète, comment je suis capable de me contrôler? » J'ai des athlètes qui me disaient « Toutes les sphères à se faire mon entraînement, ça va bien. La seule chose où je sens que je suis pas capable d'avoir un plein contrôle, c'est mon alimentation. » Puis encore une fois, on va leur dire, mais ça génère de la détresse. Ça veut dire qu'ils pensent beaucoup. Ça pèse. C'est très, très lourd. À ce moment-là. Fait qu'effectivement, il y a rien... Oui, on valide, dans le fond, le sentiment de honte, mais en voulant dire, nous, on est habitués de travailler avec des gens qui ont des pertes de contrôle, qui ont des épisodes, dans le fond, des crises de boulimie, puis on a plein de stratégies pour les aider aussi.
T'sais, revenons à la perte de contrôle subjective, comme tu parlais. Est-ce que justement ce type de perte de contrôle-là, ça pourrait être associé à des règles alimentaires puis que la personne a l'impression de perdre le contrôle parce que, ben normalement, elle ne se permet pas de manger tel aliment telle journée, mais que là, ben c'est une perte de contrôle, c'est un binge, entre guillemets, parce que là, je l'ai mangé. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait définir aussi ce type de perte de contrôle-là?
Tout à fait. Puis en fait, c'est souvent la façon dont je vais le travailler. Effectivement, je vais dire à la personne, OK, cette semaine, on joue au détective. Souvent, je leur fais acheter ou avoir un petit carnet dans le fond nutrition avec les objectifs. Puis là, cette semaine, on joue au détective, puis on va essayer d'identifier toutes les règles alimentaires. Puis une des façons que je leur présente ça, c'est de dire si tu manges quelque chose puis tu te sens coupable, souvent c'est juste parce que tu as brisé une règle alimentaire. Pas juste, oui, c'est pas pour minimiser, mais en voulant dire, c'est souvent l'association qui va être faite. Exactement. Si on se sent mal, puis on en parle justement dans une consultation en nutrition, parce que nécessairement, on s'est dit qu'il y avait quelque chose d'inadéquat avec le fait de trop manger. Mais comme tu l'as expliqué, on a tous ces moments où on va manger plus que nos signaux, parce que c'était bon, parce que c'était le fun, parce que j'en ai profité avec des amis, puis ça, c'est tout à fait normal aussi. Puis souvent, un élément qui est important dans la crise de boulimie, c'est quelque chose qui va se faire seul, hein. Fait que c'est pas, oh, je suis avec mes amis, j'ai du plaisir, puis je mange trop. Là, à ce moment-là, clairement, c'est plus une culpabilité qui va arriver, puis il va avoir comme c'est un sentiment de dire comme, ah, oh, je me, tu sais, j'ai trop mangé, puis j'ai eu un binge, versus c'est une vraie crise de boulimie, c'est pas la personne, elle va être seule, puis ça va se faire debout rapidement dans une cuisine, tu sais, ce sera pas assis en compagnie d'autres, puis c'est juste, oh, j'ai trop mangé.
Ouais, c'est une nuance quand même importante, je pense. On a parlé à plusieurs reprises dans l'épisode. C'est important d'en parler si on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, si y a des drapeaux jaunes, des drapeaux rouges, comme on en a parlé. Est-ce que tu as des ressources à nous suggérer?
Ben, je prêchais pour ma paroisse. Les nutritionnistes, qui, à mon sens, sont beaucoup plus faciles d'accès que beaucoup d'autres professionnels. Fait que si, c'est sûr que si vous êtes des athlètes, ben, d'aller voir une nutritionniste du sport, un ou une nutritionniste du sport, ben, on comprend mieux les enjeux puis les besoins physiologiques, évidemment, associés à la discipline sportive. Mais surtout, je pense qu'on est les bons alliés pour pouvoir étirer les faits entre, c'est la performance puis l'alimentation puis le poids puis la performance. Parce que, tu sais, des fois, si c'est pas notre domaine d'expertise, ben, on n'osera pas. Parce que des fois, quand on parle à des psychologues qui sont moins formés en sport, ben, eux, ils disent, ouais, mais d'un coup, c'est vrai, dans le fond, que, tu sais, plus son poids est bas, plus la performance va être élevée. Ou, ben, je sais pas si c'est vraiment juste, dans le fond, un athlète, c'est qu'est-ce que c'est vrai ou pas. Versus nous, on est des bons alliés, justement, face aux autres professionnels de la santé, mais aussi pour faire face à ces situations-là. Parce que, c'est des fois la petite voix interne là, qui va dire à la personne de se restreindre ou que sa performance va être meilleure si elle coupe tel aliment ou tout ça. Ben nous, on a plus les faits en lien avec la suivi de l'exercice puis avec les besoins réels du sport. Et c'est pour ça que je vous dirais que je pense que dans ce contexte-là, les meilleurs alliés, ce seraient les nutritionnistes du sport, qui ont aussi un intérêt, puis évidemment, qui sont formés un peu en trouble alimentaire aussi. Si c'est sûr que nous, on travaille en collaboration avec les médecins, fait que si la personne, dans le fond, remarque, avec ce qu'on a dit, différents drapeaux rouges, drapeaux jaunes, mais qu'il y a différents facteurs médicaux, comme plus physique, ben c'est sûr qu'une évaluation médicale va être nécessaire dans ce contexte-là aussi. Donc, je dirais évaluation nutritionnelle et médicale. Puis nous, souvent, comme nutritionnistes, on est en mesure de pouvoir référer en psycho quand c'est le bon moment, parce qu'on sait que les attentes sont longues. Puis nous, déjà après quelques rencontres, on va pouvoir dire, ah, OK, mais je pense qu'avec le type de personnalité ou la rigidité ou les barrières psychologiques, on n'aura pas le choix, tu sais, d'aller chercher de l'aide en psycho. Puis dans d'autres cas, on voit que naturellement, la personne se réalimente, les pertes de contrôle diminuent, puis ça va super bien. Donc, c'est pas toujours nécessaire non plus d'aller en psycho. Fait que nous, on peut aussi, je pense, agir comme intermédiaire, puis bien diriger la personne dans les ressources dans ce contexte-là.
Ouais, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que en tant que nutritionniste du sport, quand on est à l'aise avec les troubles alimentaires, quand on a cette formation-là, on peut faire un bon bout de chemin avec la personne.
Exact.
Puis c'est notre rôle aussi de nutritionniste de voir, bon, mais est-ce qu'il y a une évaluation médicale qui est nécessaire? C'est notre rôle de faire le pont avec le médecin, puis de voir, bon, ben, de quel autre professionnel on a besoin. Fait que oui, je pense que tu l'as très bien expliqué.
Puis, il y a des ressources, on peut parler d'Anel Québec aussi, puis il y a des ressources gratuites. Si dans le fond, il s'agit de d'adolescents athlètes, ben, il y a des hôpitaux qui offrent du sport pour les parents aussi. Fait que je pense que c'est d'essayer de regarder c'est quoi les ressources qui sont disponibles, dans le fond, un petit peu partout. Puis, même si on est en région, je sais que les hôpitaux à Montréal, qui vont faire le pont avec les équipes médicales sur place en région aussi. Fait qu'il y a quand même des ressources qu'on peut aller chercher pour être mieux encadré.
De ton côté, Alexia, est-ce que tu prends des clients en consultation? La grande question.
Prendre des clients en consultation, on donne des formations, on fait d'autres choses dans le fond aussi, mais oui, je prends des clients en consultation. En vrai, je ne peux jamais laisser aller cette partie-là complètement parce que j'adore le faire et je continue à travailler avec des athlètes, des danseurs, des artistes de cirque qui ont des troubles alimentaires aussi. Mais je réfère beaucoup à mes collègues qui sont excellentes dans le fond aussi dans le domaine. Je pense que c'est un travail d'équipe. Puis des fois, c'est pas vraiment du sport, de la discipline. T'sais, je pense qu'en sport, c'est important de connaître nos expertises, puis nos limites ou les sports qu'on connaît un petit peu moins. Fait que, je pense que c'est important de référer aussi vers nos collègues en nutrition du sport qui ont plus certaines expertises que d'autres aussi.
Oui, puis je me mets au début de l'épisode que j'ai eu la chance d'être formée en troubles alimentaires par toi et Jody. Peux-tu nous parler un petit peu plus de ce volet formation-là que vous offrez? Je sais qu'il y a des nutritionnistes qui m'écoutent et d'autres professionnels. Fait que, tu sais, j'ai envie aussi de te lancer la balle pour ça parce que je trouve que vous avez vraiment une belle offre de service pour les professionnels.
Merci. Ben, en fait, ça, tout ça a été initié quand on avait justement, ben, on a partagé notre expertise par rapport au traitement des troubles alimentaires chez l'athlète, puis que là, on a tellement reçu de demandes que là, on s'est dit, OK, mais faut qu'on forme nos collègues. Puis, on a décidé justement de les former. La façon dont nous, on aurait été formés, justement, c'est quand on a débuté notre carrière aussi d'une façon plus comme pratico-pratique. C'est que nous, la mission de notre organisation, Dare to Fuel Performance, c'est d'une part, ben, c'est d'éduquer, soutenir, puis outiller tous les professionnels de la santé, fait que nutritionnistes, psychologues, médecins, à pouvoir faire le traitement, troubles alimentaires, mais aussi on veut former les, puis dans le fond, outiller les professionnels du sport, c'est-à-dire les entraîneurs, puis tous les gens qui travaillent une base quotidienne avec les athlètes ou régulière, c'est-à-dire les préparateurs physiques, les physiothérapeutes, donc tous ces intervenants en sport-là. Dans leur cas, à pouvoir identifier les drapeaux rouges et intervenir pour référer. Fait que ça, c'est leur travail. Dans le fond, c'est pas de diagnostiquer, évidemment, le trouble alimentaire. Même nous, comme nutritionnistes, on ne diagnostique pas les troubles alimentaires. Mais c'est vraiment de savoir quoi les rôles et les responsabilités de chacun. Puis, on travaille beaucoup avec les organisations sportives puis les environnements sportifs à les aider à agir plus en prévention, à savoir comment favoriser un environnement qui est sain au niveau de l'alimentation puis de l'image corporelle. Fait qu'on agit de façon systématique, je pense, avec le milieu sportif puis avec les différents intervenants. Donc, on donne beaucoup de formations qui sont adaptées, je pense, aux besoins de chacun. On est comme un peu en transition de site web aussi. Donc, nos nouvelles formations vont être à jour, mais en ce moment, on fait plus du cas par cas, c'est-à-dire les gens peuvent nous communiquer avec nous, puis on va donner une formation plus privée, en fait, à des cliniques ou à des gens ou à un groupe d'industriels qui en ont besoin. Donc, on va mettre à jour notre site web sous peu.
D'ailleurs, je prendrai le temps de mettre votre site web dans les notes de l'épisode, si tu me permets.
Merci.
Je pense qu'on a couvert pas mal tous les sujets que je voulais aborder aujourd'hui et je crois que la discussion aurait été pertinente pour plusieurs sportifs qui écoutent l'épisode. Donc, merci beaucoup pour ton passage.
Ben, merci à toi. Puis ben, je suis contente que tu abordes ce sujet-là. Parce que je pense que le plus on va en parler, le plus d'une part on va aider les gens, mais le plus on va enlever les tabous, je pense, qui planent autour des troubles alimentaires.
Tout à fait, ouais. Je trouve que c'est vraiment important en fait d'en parler. Ouais. Merci encore pour ton passage, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Merci à tous les auditeurs, je vous souhaite une belle journée et on se dit à la semaine prochaine. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu entends ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin et ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado, de t'abonner au podcast Alimente ton sport et ensuite tu descends jusqu'en bas dans la section commentaires et avis. Je t'invite à cliquer sur 5 étoiles et surtout laisse-moi un commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu as appris de nouveau avec le podcast et dis-moi pourquoi tu écoutes Alimente ton sport. C'est la meilleure façon de me supporter dans le podcast et de m'encourager à venir vous jaser le plus souvent possible ici. C'est surtout la meilleure façon de me donner une bonne visibilité. Sur ce, un énorme merci d'être là et on se dit à la prochaine!